Alors Milan, bien installé ?
Il y a un lycée français à Cape Town.
Au fait, ton conteneur est arrivé ?
Dis maman, on reviendra à Mexico ?
Mais alors, on parlera quelle langue à la maison ?
Et toi dans tout ça, ça va ?
Bienvenue dans l'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.
À la naissance de mon deuxième fils, j'habitais en Australie et j'étais plutôt contente parce que, comme c'était un bébé très très lourd, j'avais récupéré mes kilos de grossesse assez vite. Donc j'étais toute fierotte de retrouver une ligne qu'en France on appellerait une bonne ligne de bikini. Et je regardais les Australiennes qui avaient leurs petits kilos qui bedonnaient au-dessus de leurs jeans taille basse et je me disais c'est quand même pas hyper sexy. Et là, j'ai une amie australienne avec qui on discutait, qui me disait quand même, les Françaises, ça fait des drôles de critères, c'est étonnant que vous soyez si maigre. Ton mari, quand il te passe la main dans le dos, il n'est pas horrifié de sentir toutes ses côtes. Et moi, je la regardais avec ses petits bourrelets qui dégoulinaient le long de son jean, et je me disais, ben, en fait, la beauté, c'est quand même hyper contingent.
Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de la beauté. Alors, disons-le tout de suite, il ne s'agit pas de tomber dans le cliché de la femme oisive n'ayant rien à faire que de prendre soin de son apparence. Figurez-vous que la notion de beauté, loin de n'être que superficielle, fait partie de l'expérience de l'expatriation. C'est un sujet qui s'est imposé à nous lors de la rédaction du guide de l'expatriation au féminin. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect culturel du rapport au corps et à l'image. En vivant à l'étranger, vous expérimenterez des critères de beauté qui vous séduiront, d'autres qui vous déstabiliseront. Le sujet ici, c'est en fait moins être belle que se sentir bien dans son corps en expatriation. Bien dans son corps, bien dans son apparence et bien dans son environnement. Pour cet épisode, nous échangeons avec Juliette Potin, coach de la Coach Academy d'Expat Communication, qui a vécu en Italie, Turquie et aux États-Unis. Bonjour Juliette.
Bonjour Amélie.
Que penses-tu de ce témoignage d'Alix ?
J'adore. C'est très rigolo et c'est très représentatif de ce qui se passe en expatriation. C'est quand on réalise qu'il y a d'autres standards en termes de beauté que dans le cas d'Alix, on réalise que la fierté qu'on peut avoir d'avoir retrouvé la ligne rapidement après une grossesse, c'est complètement lié à notre culture. C'est pas du tout quelque chose qui vient de nous de manière innée. C'est vraiment quelque chose qu'on nous a transmis, consciemment ou inconsciemment. Et quand on réalise ça, en fait, on peut le regarder avec un peu de distance. On peut le remettre en question. On peut choisir d'adopter de nouveaux standards. Ça donne quand même pas mal de liberté. Ce à quoi ce témoignage me fait penser aussi, c'est la différence entre le regard des hommes et celui des femmes sur le corps de la femme. Là, en fait, on peut imaginer que le mari d'Alix ne serait pas contre ses petits bourrelets. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, au sein du couple, on ne l'interroge pas, ce standard. Mais on pourrait déjà poser la question à son mari et savoir ce que lui, il en pense. Moi, aux États-Unis, j'ai vécu ça parce que je calquais un peu mon standard sur les Américaines. C'est-à-dire que je jugeais, clairement, quand je voyais ces corps XXL, ces Américaines bien enrobées et plein de bourrelets, elles aussi moulées dans leur robe près du corps, moi, je ne trouvais pas ça beau, clairement. Mais quand je demandais à mon mari ce qu'il en pensait, il n'était pas aussi catégorique. Donc, le standard n'était pas partagé par mon mari. Il n'était pas partagé par les Américaines non plus parce qu'elles n'avaient pas l'air de se sentir complexées. Elles avaient l'air plutôt bien dans leur basket. Donc, si ce n'était pas partagé par mon mari, si ce n'était pas partagé par les Américaines, si c'était un standard que partagé par moi-même, finalement, est-ce que c'est bien un standard, quoi ? C'est là que le standard commence à s'effriter et c'est là que c'est intéressant.
Et alors justement, quel impact a l'expatriation sur le fait de se sentir belle ?
Eh bien, on est en plein dedans, en fait, avec cet exemple. L'expatriation, c'est vraiment se confronter à une nouvelle culture, à de nouveaux standards. Et donc, c'est remettre en question, c'est s'interroger sur ce qu'on a toujours considéré comme normal. Et ça, c'est pareil pour la beauté. l'expatriation nous ouvre les yeux sur le fait qu'il y a d'autres manières de faire en matière de beauté, d'autres manières de regarder et d'autres manières de se regarder. En fait, c'est comme si on avait vécu toute notre vie avec nous-mêmes et que tout d'un coup, on se redécouvrait. En fait, on peut vraiment habiter notre corps différemment en expat. Par exemple, moi, je suis pas ce qu'on appelle mince dans le standard français. Je suis un petit gabarit, mais j'ai des formes, tu vois. Et ben, je me sentais vraiment mince aux États-Unis parmi toutes ces tailles XXL. Donc, c'est vraiment que j'avais un nouveau rapport à mon corps. Et vraiment, c'est là qu'on réalise que c'est pas lié à soi-même, c'est pas lié à son corps, c'est vraiment lié à ce qu'on a dans la tête. Donc, ça c'est, je trouve, quelque chose d'intéressant à explorer. On peut se sentir mieux en expatriation et on peut aussi se sentir moins bien, on peut se sentir complexé en expatriation. Par exemple, le fait de ne pas avoir de forme en Amérique latine, je crois que tu me parlais de ça.
Oui, alors moi, c'est exactement ça. Moi, je suis un spaghetti sur pâte, donc je suis très, très fine et vraiment pas de forme. Petite anecdote, j'étais invitée à une graduation, tu vois, une jeune fille qui terminait sa faculté, donc les parents nous ont invités. On s'est retrouvés à une soirée, mais tu sais, c'était les soirées à l'américaine, comme tu vois dans les films, là, où elles ont les robes longues, les décolletés, mais elles sont plantureuses, elles sont maquillées, mais over-maquillées. Et moi, j'arrive, la petite française, dans ma petite robe où je flottais dedans, j'ai zéro forme. J'étais maquillée, mais sans plus. Mais je te promets que personne ne me regardait. Et moi, je regardais les autres en me disant, mais c'est un sketch, elles sont déguisées, si tu veux, pour moi, pour mon standard. Et en fait, ben non, là, c'est moi qui, à l'inverse, j'étais pas du tout assez maquillée. Voilà, j'étais pas adaptée. Oui, j'ai bien senti la différence.
Oui, en expatriation, on peut être vraiment surprise, voire agacée par des standards qui ne correspondent pas aux nôtres. Et on peut aussi être séduite par d'autres manières de prendre soin de soi, d'être belle, d'être féminine. Moi, aux États-Unis, en fait, je me suis fait faire les ongles pour la première fois de ma vie, à presque 40 ans, tu vois. Alors, je m'étais déjà fait les ongles comme ça, juste pour une journée. Mais me faire les ongles de manière un peu permanente, ça, c'était la première fois que je le faisais. Et en France, j'ai jamais ressenti de pression sociale à être manucurée, ni à être d'ailleurs particulièrement bien coiffée, d'être impeccablement bien apprêtée, alors qu'aux États-Unis, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un standard qui est beaucoup plus apprêté, alors qu'en France, j'ai l'impression que notre standard est beaucoup plus au naturel. Donc, je n'ai pas forcément ressenti cette pression aux États-Unis, hein, parce que dans mon cas, moi, je ne travaillais pas. Peut-être que je l'aurais ressenti si j'avais travaillé, mais je n'ai pas forcément ressenti cette pression. Mais par contre, ça m'a amusée et j'ai eu envie de me prêter au jeu de le faire. Voilà. Donc, l'expatriation peut nous ouvrir à d'autres manières de faire, des choses dont on va juste s'amuser. Et des choses auxquelles on va peut-être garder, des choses, des rituels qui vont nous intéresser, qu'on va prolonger au retour d'expatriation.
Je crois que tu as une petite anecdote sur une amie en Thaïlande.
Oui, j'ai une amie, par exemple, qui a vraiment apprécié, et on peut le comprendre, la tradition du massage en Thaïlande. Elle est rentrée aujourd'hui depuis plus de 10 ans, et elle continue, en fait, à se faire masser régulièrement. Ce qui est, je trouve... un bon rituel à garder.
Alors, je te propose maintenant d'écouter un deuxième témoignage. C'est Charlotte, tu vas voir, qui a changé des petites choses dans son rituel beauté.
Oui, alors nous, on a changé un peu notre manière de nous laver, on va dire. J'avais été sensibilisée auparavant sur le trop de plastique dans les salles de bain. Et ensuite, en arrivant au Mexique, on a été très déçus du choix proposé. On trouvait que les produits de salle de bain pour se laver étaient trop chimiques. Et du coup, on a cherché un peu autour de nous pour trouver d'autres solutions, pour acheter des produits plus naturels. Et du coup, on est passé totalement en produits solides, donc shampoing et savon solide, et on est très content de ça. Et toute la famille, voilà, les enfants aussi, on est tous contents de se laver avec des produits plus naturels.
Donc on voit dans ce témoignage qu'effectivement, les habitudes peuvent changer, nos rituels peuvent changer en expatriation.
Oui, bien sûr, c'est l'occasion de se poser des questions qu'on ne se serait pas forcément posées en restant en France. Et comme dans ce témoignage, moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser aux produits naturels parce que une fois ma bouteille de shampoing terminée, ben, je n'ai pas trouvé d'équivalent dans les magasins. J'ai commencé à me renseigner, à lire les étiquettes comme cette personne et à me dire, tiens, ça, c'est quand même du marketing, ça n'a pas l'air très net. Et voilà, à me renseigner, à faire attention du coup à ce que je mettais sur ma peau et à remettre en question finalement ce que je faisais avant, pour lequel je ne me posais aucune question. Et donc, j'ai commencé à faire moi-même mon shampoing, mon gel douche, à passer au maquillage minéral, ce qui n'était pas du tout la tendance là-bas. Et je devais faire 40 km pour trouver un magasin bio dans lequel trouver tous ces produits. Mais c'est vrai que c'est la confrontation à des produits qui ne m'inspiraient pas confiance qui a fait que j'ai changé de rituel. Et quelquefois, c'est aussi, j'ai envie de dire, les locaux qui nous interrogent sur nos propres rituels. Et du coup, on peut se poser des questions par rapport à notre rituel. Donc là, je n'ai pas d'exemple par rapport à moi, mais je reçois là tous les ans, depuis qu'on est rentré en France, une correspondante japonaise, parce que mes enfants font du japonais. Et en fait, cette étudiante-là, elle prend 3 douches par jour. Donc, il faut lui expliquer qu'en France, ben, on se lave moins. C'est pas qu'on est moins propre, mais en fait, on économise de l'eau. Au Japon, ils n'ont pas de problème d'économie d'eau à faire, mais en France, si.
Et tu le disais tout à l'heure, on peut ressentir une certaine pression vis-à-vis d'un standard local. Moi, par exemple, je pense à mes filles. Ici, au Mexique, le poil est banni. Donc vraiment, tout le monde s'épile, tout le monde est passé à l'épilation définitive. Et tu vois, j'ai mes ados là qui sont en train de me demander, même assez jeunes, je veux passer à l'épilation définitive. T'en penses quoi ?
Ouais, ça me parle parce qu'en fait, qui on est, et puis quand on est ado, on est en pleine construction de qui on est. Qui on est, c'est un équilibre subtil entre le sentiment d'appartenir à un groupe et le sentiment d'être unique. Donc, quand on arrive dans un nouvel environnement, bah, on va chercher à recréer, à retrouver ce sentiment de qui on est en voulant s'intégrer au groupe, en voulant adopter les standards du groupe et aussi en préservant son unicité. Donc, dans leur cas, effectivement, vu qu'elles sont vraiment dans un processus d'appartenir, c'est pas étonnant qu'elles aient envie de se plier aux standards. Et toi, à l'inverse, tu es plutôt dans le fait, voilà, tu dis donc que tu as un petit peu de bouteille et tu sais qui tu es. Donc, tu as plutôt envie de préserver ton unicité et préserver la française qui est un peu poilue sur les cuisses, quoi. Donc, et c'est vrai que c'est en général à l'étranger qu'on redécouvre la française en nous, qu'on apprécie d'être un peu différente du groupe. Et par exemple, moi, aux États-Unis, d'avoir des jolies bottines alors que tout le monde est en basket.
Et alors justement, comment faire pour ne pas trop souffrir de cette pression ?
Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre d'où elle vient cette pression, en fait. De réaliser, comme on le fait ensemble, que c'est quelque chose de culturel, que le standard n'est pas universel. Et donc, qu'on a le choix de s'y soumettre ou pas. De comprendre aussi cette envie d'appartenance, comme tes ados. Donc, c'est tout à fait normal de vouloir se conformer un minimum. Et puis aussi de s'interroger sur ce qui est important pour soi, ce qui est fondamental pour soi, au fond, de quoi on a besoin. Donc, par exemple, aux États-Unis, le sport est hyper valorisé, tout le monde fait de l'exercice. Les gens que je rencontrais après m'avoir demandé ce que je faisais et dans quelle église j'allais, c'était un peu les deux questions. La troisième question, c'était qu'est-ce que tu fais comme sport, dans quelle salle de sport tu vas, etc. Et moi, je n'étais pas spécialement sportive, je n'avais pas un sport de prédilection, mais à un moment donné, j'ai eu envie de pouvoir répondre à un truc. Donc, je me suis interrogée sur mon besoin. Est-ce que j'avais besoin de répondre pour me sentir appartenir au groupe et pouvoir dire « oui, moi, mon sport, c'est ça ?» Ou est-ce que j'avais envie de reprendre le sport pour moi, finalement ? Quel était mon besoin ? J'ai réalisé que finalement, moi, j'avais besoin de bouger. Parce que aux États-Unis, je bougeais plus du tout. Donc en fait, je sortais plus du tout de ma voiture, je marchais plus, et donc j'ai ressenti le besoin de effectivement me bouger un peu plus. Et je me suis mis à la course à pied, mais pas en salle. Je me suis mis à la course à pied avec des copines pour pouvoir papoter, parce que mon besoin, c'était aussi de partager avec quelqu'un, de rencontrer des gens. Donc, j'ai pu concilier finalement mon besoin de bouger, mon besoin aussi de rencontrer des gens, avec le fait de me sentir appartenir en disant « oui, bah moi, je cours ».
Tu as écrit un article pour Femmes Expat sur les kilos de l'expatriation. Peux-tu nous en parler ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis passionnée par la relation entre le corps et l'esprit. Et en fait, quand on prend des kilos, on a tendance à plaquer immédiatement des causes dessus. Tu vois, par exemple, on se dit bah, « moi, j'ai fait des excès pendant les fêtes ». Ou c'est le fait d'être à la maison qui fait que je grignote toute la journée. Ou pour ma part, je me disais, oh, c'est le sucre qu'ils rajoutent dans tous les aliments aux États-Unis. Et on a en partie raison, mais en partie seulement, parce qu'il y a aussi et surtout des causes liées à notre état d'esprit, à nos émotions, à nos contrariétés et à nos croyances aussi. Et tu vois, par exemple, quand on dit « Ah, j'en ai plein le dos de ces problèmes administratifs », et qu'on se retrouve avec le dos coincé, on voit bien qu'il y a un lien finalement entre ces deux choses-là. Pareil, quand on dit « ça me reste en travers de la gorge », cette discussion avec un tel, on a mal à la gorge. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, et de la même manière, on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'on a pris des kilos. Alors il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais c'est dans une démarche vraiment de comprendre le message que notre corps est en train de nous passer, et donc peut-être d'arriver mieux à le résoudre et de conscientiser des choses qu'on n'avait pas encore conscientisées. Par exemple, quand c'est une cause émotionnelle, souvent à l'intérieur de soi, on le sait. D'ailleurs, on va dire ma famille me manque, je me console avec du chocolat, par exemple. Ou cette situation hystérique, je mange pour me calmer les nerfs. Donc, on va le savoir au fond de nous qu'il y a une cause émotionnelle, mais ça peut être aussi plus profond que ça, ça peut toucher des croyances qu'on a sur nous. Je pense par exemple au fait de ne pas être à la hauteur. On peut souvent se sentir pas à la hauteur quand on est à l'étranger, par exemple quand on cherche du travail ou quand on ne parle pas bien la langue. Et bien ça, en fait, c'est connu par les experts de ces choses-là, que dans ces cas-là, on stocke plutôt au niveau du ventre, parce que le ventre, c'est la zone qui correspond aux capacités. D'ailleurs, une personne, on dit d'une personne qu'elle en a dans le ventre, voilà, quand une personne qui est sûre d'elle. Et ben, quand on pense qu'on n'en a pas dans le ventre, ben, du coup, on stocke pour en avoir. Et voilà, c'est pour ça que dans des périodes de doute sur nos capacités, on stocke plutôt dans cette partie-là.
Juliette, quel serait ton mot de la fin ?
Eh bien, écoute, la beauté, finalement, peut sembler être un sujet léger au premier abord. Et je trouve qu'on en a finalement fait un sujet très sérieux et profond dans cet épisode de podcast. Donc, mon mot de la fin, ce serait plutôt de terminer avec un peu plus de légèreté et peut-être le conseil de s'amuser avec les différences qu'on va rencontrer en expatriation, de s'amuser aussi avec soi-même, de tester des nouveaux rituels, voilà, de s'autoriser en fait à changer ses standards pour finalement pour se sentir plus libre, peut-être assumer ses bourrelets par exemple.
Et d'être tout à fait à l'aise, très maquillée dans une soirée mexicaine. Merci encore Juliette. Et je rappelle que si nos auditrices veulent en savoir plus, elles peuvent aller sur le site de femmexpat.com. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'expatriation en solo. Alors je vous dis à bientôt.
Merci Amélie, à bientôt.
Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.